Dans le journal, c'est avec Joël Maxime Lalaye. Joël, bonjour.
Bonjour Nina Verdiania Baudet. Bonne fête des pères à tous les papas du monde entier et de la Centrafrique. À la une, les braquages deviennent de plus en plus fréquents à Bimbo. Hier, un conducteur de mototaxi a été tué et deux personnes blessées au quartier Bataliment. Précision au début de ce journal. La situation sécuritaire encore volatile à Wada Diallé dans la Vakaga. La ville serait sous contrôle des hommes armés. Des scènes de tuerie, pillage de biens et déplacement de la population sont enregistrées. Et puis, célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé, demande à la population centrafricaine de se faire dépister. Au football, la Fédération centrafricaine réagit à la participation ou pas du club Trésor de Mbomo au play-off de Bangui. À suivre son président Célestin Yanindi dans la page sport. Nous sommes deux pour vous présenter ce journal. Bonaventure Ngomba Katikiro, bonjour et bonne fête à tous les papas.
Bonjour Maxime Joël Lalaye, bonjour à tous et bonne fête des pères. Les vols à main armée sont loin de prendre fin à Bimbo. Un conducteur de mototaxi a été tué et deux autres personnes blessées.
C'est le bilan des deux braquages qui ont eu lieu hier dans le secteur de Bataliment. Le point avec Martial Steve Metisinga.
Les faits se sont déroulés simultanément à deux endroits aux environs de 23 heures. Le premier au niveau de la rue du Grand Séminaire. Les agresseurs se sont attaqués à un conducteur de taxi-moto et son passager. Un habitant en témoigne sous l'anonymat.
Il y a un taxi-moto qui a été braqué au niveau du Grand Séminaire. Et puis, le taxi-moto était accompagné par un militaire qui était de retour de détachement. Et le militaire aussi a eu un choc, mais le taxi-moto est mort.
La deuxième violence est produite sur la rue Micheline. Les détonations d'armes ont surpris certains habitants encore au lit. Ce même témoin explique ce qu'il a constaté.
Vers les 23 heures, il y a eu des feux partout. Par-ci, par-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vers les 23h55, allant vers minuit, brusquement, ce véhicule-là est venu se cogner vers la clôture. L'avocate Kengelewa, lorsque la gendarmerie est arrivée, on est venu, on a vu que sur son cou, il y a eu un choc.
Dépassés, ces habitants réclament l'installation d'un checkpoint des forces de défense et de sécurité dans le secteur. Cette femme est visiblement remontée.
Nous avons été surpris par ces détonations d'armes. Certaines personnes étaient encore dehors. Nous sommes vraiment abandonnés. Nous souhaitons avoir des checkpoints dans le secteur. Nous demandons au président de la République de nous envoyer des militaires pour assurer la sécurité de la population de Ganikola.
Les braquages sont devenus le lot quotidien des habitants de Bataliment et autres localités. Les victimes de ces violences pointent du doit l'absence d'électricité chez eux.
Merci à vous, Martial Steve Metisinga.
Volet sécuritaire toujours, la situation est encore difficile à Wanda Diallé dans la Vakaga.
Oui, Bonaventure, la ville serait encore contrôlée par des hommes armés. La perturbation du réseau téléphonique ce matin rend difficile la communication avec les habitants. Les rebelles ont lancé vendredi dernier une attaque d'abord contre les éléments des forces armées centrafricaines avant de s'en prendre aux civils. Selon des sources locales, ces rebelles font des assassinats et des pillages de biens. Une bonne partie de la population a fui en brousse pour éviter la violence. Quelques sources contactées par Radio Ndekiluka affirment que les rebelles vont dans les champs et menacent les personnes déplacées à revenir dans les villes. Les coups de feu qu'ils font entendre dans la brousse obligent les déplacés à leur hutte pour aller plus loin. La population en détresse demande au gouvernement d'envoyer plus de forces de défense et des alliés pour mettre fin à leur calvaire.
Maxime, la route continue de faire des victimes sur l'axe Boali.
Ce dimanche matin, un véhicule de marque BG115 est entré en collision avec un mototaxi au village d'Andi, situé à 20 km de Bangui. Bilan, 3 morts et 4 blessés. Écoutons les témoignages de Ghislain Bongo, un habitant de Danzi.
C'est un véhicule de marque BG115 qui revenait de Boali et qui est rentré en collision avec un taxi-moto. Et voilà que le taxi-moto, il est décédé avec ses deux passagers. D'après les informations reçues, le conducteur, il voulait transporter, je crois, 5 personnes sur une moto, marque TVS. Et ils se sont rencontrés avec le véhicule et voilà que les 3 sont décédés sur le champ. Il y a eu 4 blessés. Je ne sais pas si certains d'entre ceux qui étaient sur le véhicule là aussi voulaient sauter et ils ont cassé leurs jambes, je ne sais pas trop. Avant d'arriver sur le pont, il y a une petite colline là. Quand tu remontes, tu arrives à Danzi. C'est juste là. Le véhicule de la gendarmerie est arrivé légèrement en retard. Et puis, il a transféré juste plein des corps. Mais les blessés, heureusement, il y a un monsieur là de passage. On l'a supplié et puis il a accepté de prendre les blessés. il les a ramenés à l'hôpital.
Cet habitant était joint au téléphone par Teddy Parfait Comessé, rappelant que cet accident de circulation intervient après un autre survenu le 10 juin dernier sur la colline de Kassango, non loin de Boali, ayant coûté la vie à 9 personnes.
Dans la suite de l'actualité de cette mi-journée, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose.
En République centrafricaine, il n'y a qu'un seul centre de recherche et de lutte contre cette maladie. Cette structure basée à Bangui reçoit plus de 60 malades par jour, mais elle éprouve des difficultés, manque de médecins qualifiés, d'équipements et de médicaments. Reportage de Alexia Félix Angbandi.
On n'a que deux médecins qui consultent.
5 salles d'hospitalisation pour 22 lits. Ici, plus de 60 malades sont accueillis par jour. Une cinquantaine de personnels soignants travaillent en rotation pour sauver des vies. Nadej Madopeo, médecin-chef, nous fait visiter la structure.
Ce sont là, ce n'est pas vraiment des cas de réanimation. La faute des places, nous sommes obligés de les mettre.
Elle explique le fonctionnement.
Le centre fonctionne 24 heures sur 24 avec les consultations de suivi, de routine. Et il y a un service de garde qui est là pour surveiller nos patients hospitalisés. Notre centre est tout petit. Il dispose au moins 24 lits.
Ce centre travaille le jour comme la nuit, mais la prise en charge n'est pas gratuite. Docteur Nadej énumère ici quelques difficultés.
Nous avons un problème de délestage tous les jours, mais on n'en dispose pas de groupe électrogène. Donc, du coup, nos patients qui ont besoin d'oxygène pour leur survie, on sait comment remédier à cela, donc nous serons obligés d'envoyer ces enfants-là au niveau de la pédiatrie, au niveau du laboratoire. On n'a pas assez de laboratins, donc le laboratoire fonctionne de 7h30 jusqu'à 15h. Et la nuit, on est obligé d'envoyer nos patients au laboratoire national. Deux fois, nous sommes en rupture des médicaments.
Rita a quitté Bimbo pour emmener sa fille de 7 ans au rendez-vous. Cela fait plus d'un an qu'elle fréquente ce centre. Elle apprécie l'accueil et la qualité des soins, mais témoigne quelques difficultés ici.
Ce centre accueille bien les enfants qui souffrent de la drépanocytose, mais parfois ce centre éprouve certaines difficultés. Il arrive souvent, il n'y a pas de médicaments. Les médecins nous prescrivent des ordonnances pour en acheter ailleurs. Les salles ne sont pas trop grandes et les lits ne sont pas nombreux, ce qui fait que les patients partagent le même lit.
Face à ces difficultés qui ralentissent le fonctionnement de ce centre, la médecin-chef sollicite le soutien du gouvernement, des ONG ainsi que des personnes de bonne foi.
Cette maladie chronique fait dépenser les patients. Cela veut dire qu'on a besoin d'aide de tout le monde, du gouvernement, des ONG, des personnes de bonne foi. Parce que certains parents disent qu'ils n'ont pas les moyens pour venir payer les consultations tous les mois. Certains carrément ne viennent pas si l'enfant fait la crise à la maison, deux fois c'est fatal.
Le centre de recherche de lutte contre la drépanocytose a été rendu vraiment opérationnel en 2018 dans le but d'aider et de soulager les souffrances des drépanocytaires en RCA. Cependant, la prise en charge n'est pas totalement gratuite, ce qui entraîne la mort de certains patients qui n'ont pas assez de moyens, selon la médecin-chef qui indique également que 5 drépanocytaires ont perdu la vie au mois de mai dernier.
Alexia Félix Yangbandi, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge. Cette maladie affecte plus de 5 millions de personnes dans le monde. Et toujours à propos de cette maladie génétique héréditaire très répandue en Afrique, Astrid de Bonheur Kolingé a rencontré un drépanocytaire au centre de prise en charge de Bangui.
Patient, Crispin Lenissi attend son tour de consultation. Âgé de 17 ans, il est en classe de 3e au lycée de Fatima. Il raconte comment la drépanocytose le freine dans ses études.
Cette maladie-là, bon, parfois, ça fait vraiment mal. C'est vraiment très mal. Et quand tu commences à avoir des douleurs, tu as des douleurs partout sur le corps. Les pieds, les mains, les dos, partout, tu as mal. Ça a beaucoup impact sur moi, mais à l'école, parfois même, tu ne peux pas composer les premiers trimestres, le deuxième trimestre, le troisième, là, tu ne feras pas.
Jonas, son oncle, apprécie les qualités d'adaptation et le courage de son neveu dans son quotidien.
Cette maladie le rend fragile, mais malgré ça, il reste très brave. Il aime être avec ses amis, même s'il ne joue pas au ballon. Et à l'école, il est très intelligent, mais le plus souvent, il n'arrive pas à terminer l'année scolaire.
La maladie n'empêche pas Crispin de construire son avenir comme n'importe quel adolescent de son âge.
Ouais. J'ai un projet, moi. Mon projet, c'est que dans ma tête, je dois être un informaticien. Ça, c'est mon projet, obligatoirement. Je le devrais être. C'est un problème de santé, donc il faut être courageux, battant pour gagner ta vie.
Infirmier au centre de prise en charge de la drépanocytose, Jean Lozas Bongaré donne des conseils en regardant le carnet de suivi de Crispin.
Comme vous voyez, c'est un malade mal suivi. C'est-à-dire que quand on donne les rendez-vous, les parents ne respectent pas. C'est déjà une difficulté pour nous ici et ce n'est pas lui seul. Les conseils qu'on donne aux parents des malades, c'est d'apprendre au fur et à mesure que l'enfant grandit à comprendre sa maladie, le traitement. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'acide folique et puis la prise de l'eau.
La drépanocytose est une maladie incurable. En Centrafrique, plusieurs enfants et adolescents souffrent et se battent au quotidien comme Crispin.
Une occasion pour le ministre de la Santé de demander à la population d'aller massivement se faire dépister. Dr Pierre Sonsi avec Ren Fabien Dottiga.
Le mondial de lutte contre la drépanocytose vise au moins trois objectifs. Promouvoir la prise de conscience de l'ampleur et de la gravité de la drépanocytose comme problème de santé publique majeur. Sensibiliser les gouvernants et les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les communautés afin que ceux-ci s'engagent davantage dans la lutte contre ce fléau. Le centre de recherche et de traitement de la drépanocytose Dr Harry Baya enregistre de plus en plus de patients en hospitalisation. 2000 hospitalisation au titre de l'année 2021. Dans le cadre des partenariats multiples engagés, des investissements significatifs sont envisagés d'intensifier le dépistage. S'agissant du thème de la journée mondiale édition 2022 qui met l'emphase sur le dépistage de la drépanocytose, je lance un vibrant appel à toutes et à tous pour faire du dépistage de la drépanocytose un impératif individuel et familial, particulièrement en cas d'indication de risque.
Et puis la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui, 19 juin, la fête des pères.
Cette fête est instituée par l'ancien président américain Lyndon B. Johnson en 1966 pour rendre hommage aux papas qui s'occupent de leurs enfants après la mort de leur maman. La République centrafricaine a rendu officielle cette fête célébrée le troisième dimanche du mois de juin. Dans une déclaration faite hier, la ministre de la Protection de l'Enfance et de la Famille demande aux enfants d'offrir des fleurs roses rouges à leur père et aux femmes d'honorer leur mari. Marguerite Ramadan au micro de président Gisèle Huguet.
Centrafricaine, Centrafricain, chers compatriotes, le dimanche 19 juin 2022, la République centrafricaine célèbre la fête des pères. Au niveau de la famille, les pères sont ceux qui mettent leur vie en danger pour s'assurer que leurs enfants et leurs familles vivent dans la sécurité. Papa de Centrafrique, le pays vous est reconnaissant. Le père de famille doit être celui qui transmet à ses enfants le sens de la morale, la maîtrise de leur agressivité, également la patience et le pardon, et être pour eux un guide et une référence tout au long de leur vie. Pour le garçon, il doit être le modèle à qui il cherche à ressembler. Et pour la fille, il doit être le modèle du sexe opposé. Chers enfants et chères mamans, en plus des cadeaux, offrez au papa une rose rouge, symbole de cette fête, et une blanche pour ceux qui ne sont plus de ce monde. Soyez des papas à qui les enfants doivent dire « Papa, tu as sacrifié ton beau jour pour nous rendre heureux. Je vous souhaite une très bonne fête des pères. »
La page sport de cette mi-journée, c'est avec vous Claire Assamadinga. Claire, bonjour.
Bonjour Maxime Joël Lalaye, bonne fête des pères à tous les papas de Centrafrique.
Football, la Fédération Centrafricaine est en négociation pour faire participer Trésor du Momo à la deuxième édition du playoff qui se déroule ici à Bangui.
C'est ce qu'a indiqué Célestin Yanenji, président de l'instance de football de la République Centrafricaine. Le premier match a été joué ce vendredi entre l'Olympique Réal de Bangui et l'ASP Toka de Loam. Mais le représentant du Momo n'est toujours pas arrivé à Bangui. Pour couper court à ses inquiétudes, Célestin Yanenji répond.
Nous avons suivi sur vos ondes le député de la première circonscription de Bangassou dire que la fédération centrafricaine était irresponsable parce que l'équipe de Mbombo n'est pas arrivée à Bangui. Je suis vraiment choqué par cette déclaration. C'est la fédération centrafricaine de football qui a choisi, dans l'objectif de la cohésion sociale dans notre pays, de faire participer la Ligue de Mbomo. Malgré tous les efforts que nous avons pu déployer, l'équipe Trésor n'est pas encore à Bangui. Et nous continuons à nous battre. Nous avons prévu que la délégation vienne par avion. Malheureusement, aujourd'hui, aucun avion n'est disponible. Nous sommes allés vers UNAS, ils ne sont pas disponibles. Et nous sommes allés voir même le responsable, le représentant de l'UNICEF. Nous sommes allés vers la MINUSCA, qui nous a dit, voilà, nous avons des avions, nous avons des pilotes, mais nous n'avons pas de carburant. Donc nous nous battons encore. On peut avoir la possibilité que cette équipe-là arrive à Bangui demain et peut-être mardi. Nous avons encore espoir.
Football toujours, les entraîneurs des deux équipes qui ont disputé les matchs d'ouverture de la deuxième édition du play-off à Bangui se prononcent sur la prestation de leur équipe.
L'Olympique Real de Bangui avait écrasé l'ASP Toka de Bosangwa dans l'OAM 6-0. Maximilien Ponzé, entraîneur des Verts Noirs de l'Olympique Real de Bangui, fier de son équipe.
C'est notre objectif qu'on avait tracé depuis le début et on a fait le paquet. Pour mes joueurs, je les félicite. Ils sont toujours en forme et ils doivent garder cette forme-là jusqu'à la fin de ce play-off. Et pour nos adversaires, on ne les néglige pas. C'est une équipe vraiment appréciable et puis c'est une équipe très jeune. Je les félicite et ils continuent toujours à travailler et ça va payer un jour.
Malgré la lourde défaite, Fleury Tati Dimandoum, coach de l'ASP Toka, garde de l'espoir dans cette compétition.
Nous avons fait une très bonne entame. À la 20e minute, on prend un but sur balle arrêtée. Nous avons allié un gardien jeune par rapport à son expérience. Du coup, le match a basculé en faveur de l'adversaire. Nous ne sommes pas venus seulement jouer contre Olympique. Il y a des adversaires encore devant. Donc nous aurons le temps d'observer nos adversaires lors de leur match et nous allons corriger ce qui n'a pas marché. Nous allons avancer.
Des propos recueillis par Bienvenue Bello. Demain à 15h, Olympique Real de Bangui va affronter Racing Club de l'EGTB de la Lobaye au stade Barthélémy Boganda.
C'est la fin de ce journal en français. Restez avec nous car la version Sango c'est dans un instant.